Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble, en ce long temps de confinement, pour revenir au texte de Yves Eliouette, Falrun. Un escalier raide conduit jusqu'au comble. Là-haut, sous le toit, se trouve une chambre à un lit, simple sommier à rayures. Roulé dessus le matelas, coquille mollasse. Il ouvre le châssis de la lucarne et fait pivoter les volets de bois plein. Un flot d'air nocturne se précipite, pareil à une bête guetteuse. C'est comme si tout le bâtiment, muselé et asphyxié, prenait une inspiration géante par cette ouverture. Et certes, en face, la lune règne en son plein, là-haut. Et maintenant, sa lumière s'engouffre par l'ouverture rectangulaire en compagnie d'une bouffée d'odeur océane. L'odeur d'océan, de ses tripes froides et mouvementées. Et il est là lui-même, certes. Et il s'avance, noir et galonné d'argent, vague après vague, étrange marchandise suceuse en contrebas de l'os chauve des dunes, sur la peau poudrée et sucrée de la grève. Falrun reçoit la gifle en pleine figure, il titube, pour deux raisons, l'une précédant l'autre. Depuis un moment, ce léger tangage sous les alizés quand il montait l'escalier, ce tangage léger. Comptant les balustres de bois, il rassemble en une étreinte les marches et la rampe, dessinant une double volute ascendante. Et monte. Monteras-tu ? L'aigre plafond aux angles duquel s'enchevêtrent des toiles d'araignées devenues si épaisses, formant un crêpe gris, tout ça de salive abdominale sortant du trou du cul de la petite bête ou d'un orifice voisin peut-être. Nuages de fils desséchés. Cartonnage friable et les araignées crevées vidées accrochées aux ruines de leurs pièges. Il titube. L'autre raison tient au grand coup de vent arrivé là, à la grande fraîcheur comme une plaie toute propre. L'os froid, prisme de glace où joue la lune, se découpe, se scinde en équerre, en cible sciée par morceaux, bâtonnets de craie ou de sel. Le coup de tête du bison dans la bouche et l'œil où les larmes explosent. Toute cette irritation de la sclérotique, la poivrade et le vent scalpel se battant dans l'œil. Il cligne contre la rafale. Il y a des couvertures dans un placard mural. Falrun referme la lucarne après ce rinçage, ce décapage de la mansarde. D'un mouvement de poignet, il étale le matelas, il le déroule sur le lit, bourré de crin ou de Dieu sait quoi. Moi aussi, d'ailleurs, je commence à être bourré, mon vieux matelas. Il n'est même pas moisi ou quoi que ce soit. C'est comme les couvertures tout à l'heure, à part une déchirure fort ancienne dans le bord de l'une d'elles, quadrillé, mon pote. De belles lignes bleues s'entrecroisant sur le blanc crème un peu poilu, un peu angora. Toute une ribambelle de boules de naphtaline était cachée là-dedans. J'aime bien l'odeur. Et quand il a déplié les couvrantes, elles sont tombées par terre et se sont sauvées dans les coins et sous le lit, furtives, pareilles à des souris blanches. Et là, il a failli en écraser une sous son talon. Mais c'est salement coriace. Et un peu plus, je me cassais la gueule, un vrai vol plané. Heureusement que j'ai posé le rhum. Il dit, et désencapuchonne le litre de son verre qu'il remplit. Je vais prendre tout mon temps. Dans la pâtisserie roulée du matelas se dissimulait un traversin, un polochon compact, sur lequel il cale sa tête. Il a enlevé ses chaussures. Il ramène les couvertures sur ses jambes et sa poitrine, le verre et la bouteille à portée de main. La lumière blanche éclaire la porte et le papier mural, à bouquet de la mansarde. Il y a un grand pan d'ombre que découpe la déclivité du toit. En bas, quelque chose grince. C'est encore la bouffée d'air de tout à l'heure. Elle s'est glissée par toutes les ouvertures, par la moindre fente et, certes, a dû déranger quelque chose qui maintenant retombe ou se remet en place, en vertu des lois de la pesanteur ou de l'inertie. Et c'est de nouveau le silence. Et l'homme s'endort à présent. De même, jadis, l'ancêtre à la face tannée dans le grenier étoilé, que visite un peu le vent de la nuit pénétrant par la tabatière coincée, et aussi, sans doute, susurrant entre les joints des ardoises vieilles et songeuses, comme dans les reins d'une femme possédée, le plaisir entre. Loup-garou. Et il peut maintenant entendre le choc des barques apprivoisées par la lune et l'appel au loin des chouettes dans les arbres et sur les pierres sagaces. Et là où est le ventre de la maison, bouger et s'agiter mollement sans fin, on ne sait trop quoi. Les morts coiffés de dentelles cuites et du papier roulé des cornets de tabac à un sou. Et à travers la brume glissait la rivière à grenouilles et à foulques. Et à la terrasse, ils sont attablés dans un jour très ancien, buvant du vin et du cidre sous les arbres feuillus. Et passe par là la petite sœur sous sa cornette immaculée. Dans la semaine, elle fait la classe aux orphelines. Avec ce rose de la vergogne ou de la timidité sur le visage. Être vue par tous ces hommes. Elle a la taille fine. Et à partir de là s'évase la lourde robe de laine et deux riens de sein. Et puis des hanches et des fesses que l'on devine si bien qu'on la sent femme là-dessous. Aussi plonge-t-on le nez dans le verre sans trop oser la regarder de peur de commettre non seulement le péché de luxure, mais encore une espèce de profanation. Et il ouvre un œil et tousse dans le même temps. La lune a installé son ventre dans la mansarde, chair de poisson lumineuse se reflétant dans un bout de miroir cassé, bout de miroir oublié, entre quatre têtes de clous sur la cloison fleurie. Ô sœur lumineuse des blancs ruisseaux de Canaan. Il perçoit dans ses os un mouvement qui les fait onduler, pareil à des tuyaux mous, et se gonfler et se durcir encore. L'aïeul était un colosse. Françoise, je te revois. Et je te revois dans la nuit de la cuisine jadis. Ton corps impalpable sur une chaise de paille, occupé à écosser des pois qui tombaient et roulaient, petits cailloux grisâtres, dans une cuve d'émail blanc cerclée d'un mince bourrelet bleu. Et je demeurais parfois la nuit entière à tes côtés, et tu étais enveloppé d'une lumière qui semblait sortir, fumée brillante de ton corps. Comme aujourd'hui dans cette chambre abandonnée vient la lune avec les bruits épars du dehors, ceux qu'ici je suis seul à entendre, c'est-à-dire à peu près rien, sinon le rire huileux de la mer quelque part, par là. Demain sans doute sera. Elle sera grise et basse quand je m'éveillerai. Il y aura les vasières et le vent soufflera. On se croira un dimanche. Et je verrai des bateaux filer devant la fenêtre avec cette couleur jaune d'œuf caractéristique. On aura construit en face trois nouvelles maisons. Où sont maintenant les chevaux ? Faites en dur de dur. Elles se dresseront leurs gros culs sommés de fer forgé tournés vers l'eau en ayant marre, ou les bouteilles vides glougloutent. Et je vomirai des bateaux dans le lavabo encrassé ou dans les chiottes rouillées, que le pithécanthrope a marqué de sa mer d'ineffable, maintenant bien croûteuse et aussi solide que la pyramide de Zosette, dont on n'a retrouvé qu'un pied. Le froid excessif de la vacuité d'esprit me poindra et insolemment défileront des théories de nuages rouquins, bourrent sur les crânes de nègres albinos aux lèvres blanches crémeuses. Le cul moulé dans des jupes collantes, violettes, travesties au milieu de l'immondice des villes, au-dessus de l'océan boucané.
Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère s'en va chantant et la fille soupire. Qu'as-tu à soupirer, Marguerite, ma fille? J'ai bien trop dire en moi, mais je n'ose le dire. Les accorner de son cornet de cuivre, à la troisième fois la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche, celui qui la dépouille dit je ne sais que dire. Elle a le cheveu blond et le sein d'une fille, il a pris son couteau, en morceaux il a mise. On a fait un banquet au baron et au prince. Nous voici tous ici, sauf ma sœur Marguerite. N'avez qu'à manger sur la première assise. Ma tête est dans le plat mon cœur aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine et sur vos noirs charbons, mes tendres os y grillent.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Voilà donc, après ce moment musical, nous revenons au texte de Yves Eléouette. Au fond du gouffre de Plougrescan, de grandes ombres blanches qui ont l'air d'attendre. Elles sont recouvertes d'une épaisseur de mer mouvante, allant et venant, se gonflant, pareille à la peau transparente d'une bête froide et bleuâtre. Elles semblent dire « Viens ici, un peu plus près encore, un peu plus près. » Verdâtre serait plus juste. Une bouteille vide, oui, aussi, est bleue, et qu'on imagine, ou plutôt que l'on devine, patiente infiniment. Et plus loin, elle se calme et se fait plate, à peine ridée. Un œil miroite au creux de chaque pli, lequel se déplace conjointement et se déforme et s'éloigne, immédiatement remplacé par un autre. Ceci est la vérité. Un grand multiplié par 4 égale 5. Et non loin, sur la hauteur, depuis plus d'un siècle, 1850 exactement, des os reposent ou se défont, ou parlent entre eux, ou ont simplement disparu sous le socle de la statue gris foncé, du fait de la pierre tachée de lichen vert, du fait du temps. Et d'autre part, chanoine honoraire, mais comment lui en vouloir ? Exposé qu'il est sous sa barrette et dans son surplis de pierre, l'étole au cou, à toutes les intempéries. Ils remuent ensemble au fond de la nuit claire. Je les entends ne faire à peu près aucun bruit, sinon vers le bas, celui du ressac avec sa précision d'horlogerie et, dans la direction du haut, le crissement léger des pariétaires contre les joints du granit que le sable aspire lentement, avale, sans remuer ses lèvres de poudre. Et l'on pouvait voir Philomène et ses cheveux gris tirés et mouillés d'eau de l'évier. Elle se tenait debout à l'orée d'une de ses venelles, si obscure au-dessus desquelles le ciel est pareil à une plaque d'émail, tout à fait intangible, dirait-on. Et cela dure, en effet. Pas un nuage. Philomène allant rendre visite à quelque vieille de l'hospice, la pauvre. Elle ne va pas très fort. Dans les hauteurs, le ciel candide, à l'aplomb du passage entre deux murs de pierre épaisse, lourdement assises les unes sur les autres. Philomène, bientôt rejointe par deux femmes, dont l'une à peu près dans ses âges et pareillement vêtue, couleur muraille ou vieille ardoise, et une autre plus jeune, sans conteste, et grosse et rougeaude sur ses jambes, colonne de graisse compacte et dure. Et plus loin, à des kilomètres de là, les rochers à perpétuité. Et slash, venant se briser dessus toujours pareil, l'infatigable. Slash, slash. Jadis, continuellement à courir plus ou moins, mine de rien, après une de ses filles aux yeux clairs, les bords du nez étoilés de minuscules pastilles brunes, et lui toujours sa vergette brûlante et prête à entrer en bataille dans la culotte qui comprime alors toute la boutique. Des taches de soleil zigzagant à l'infini et le ciel, rideau gris, perles gonflées de chaleur et de fumée. Jeu défendu sur le sable. sable dans les plis de laine et sur la peau, là où elle s'ensoleille, presque craquante. Baiser jusqu'au tour des dents ensalivées, sans défaut. La langue tout autour et en profondeur avec la glu légère de la salive et durant cette opération, le cœur bat fort au point qu'on l'entend à l'oreille nue. Et je me rappelle, le vent venait du ciel. Il giclait sur nous comme s'il était issu d'un pis de vache tendu et blanc, s'enfuyant dans le ciel sous forme de nuages. C'était le premier jour avant le premier jour de l'été, ou le premier jour de l'été, ou le jour après le premier jour de l'été, et ainsi de suite, dans les deux sens, à perte de vue. Il était aussi violent qu'un cyclone, peut-être tournant autour de son œil comme un motocycliste sur la paroi interne d'un cylindre ou comme un manège autour de son axe dans les fêtes et plein d'escarbilles blanches. Et dans tel chemin s'élevaient les hautes tentacules des digitales garnies de ventouses également blanches et violettes et pourpres, allongées en cloches au bord festonné. Et derrière l'entrecroisement des branches d'un haut talus, la lumière du matin. Et même les piaulements irrités au-dessus de moi d'un goéland. Sans doute approchais-je, sans le savoir, de ses œufs ou de ses petits. Et à Port-Scarf, il était encore plus fort, de sorte que les nombreux rochers, avec leurs allures de gnomes, donnaient l'impression de se plier, de se gondoler dans l'air. L'eau montait sur les vasières et se ridait et devenait écailleuse, dorade. Une grande dorade bleue et verte, à 10 têtes, qui se glissait entre les chaussées de galets, elfes dans les joncs bruns mordorés, une hirondelle coupant la surface, cisaillant quelques centimètres vite. Et dans le haut de la ville sainte tourbillonnaient des papiers à l'arrêt des cars. Un double whisky pleine gueule des années plus tard. Branches derrière le mur agitées et semblables à des pleureuses, se balançaient sans trêve et chuchotant et se lamentant autour du mort dans sa paralysie d'os et de viande sous des nuages de mouches. De petites lucarnes borgnaient une tourterelle éloignée dans votre dos ou un pigeon ou Dieu sait quel sinistre buiteur du jour à midi dans un haubourg plus qu'à moitié médiéval et funèbre. Et le vent aigre des morts soufflant et s'apprivoisant et tout s'en va. Tout se débine si vite que bientôt il ne reste plus rien que ces herbes sèches ou ces asiles dans lesquels végètent des débris que plus personne n'écoute. Tout le monde s'en fout, à peu près tout le monde. C'est pourtant vrai. Et tu peux toujours raconter dans ton jargon de ta voix devenue brumeuse « J'ai connu la première bicyclette et même j'ai vu un jour un grand bi à Paris ». Et la première automobile, et il va sans dire la première fusée, je l'ai vue à la télévision. De même que j'ai vu le premier pas sur la Lune. Nous étions restés veillés pour ça. Tout le monde s'en fout. Avec parfois une joviale indifférence. Et tout le monde préfère, on le comprend. S'astiquer la chagatte ou se taper sur la colonne, c'est vrai. Quand on ne baisse pas tout simplement un bon coup. Sac de la ville. Explosion de bonbonnes de gaz, mais tout petit crème pour cuire incolore, tortue de plastique renversée sur le dos, moule à pâté de sable. Les angliches profitent de la marée, descend sur nous, ô Seigneur, rivage parsemé de merde et de tessons de bouteilles cassés à coups de pierre. L'ennemi saxon, peu importe. La main en plâtre de l'écrivain dans une vitrine et quelques photographies plus ou moins solennelles, tout ce qui reste plus une mèche de cheveux. Il avait 3 ans, ou 4 ou 5. Sous-vert mité et taraudé. Jeunes cheveux de vieux birbe roulés en boucle, prélevés par la mère attentive à l'aide de ciseaux de brodeuse. Simple tendresse maternelle, ou peut-être espoir secrètement caressé d'avoir couvé un œuf d'aigle. Il ira loin. Sans doute, sans doute. Tac-tac, 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 tac-tac. Répète la bouche de fer de Tuan Mai Keril, aux jambières de lard, aux yeux de Mickey, aux oreilles de lait tournées, aux yeux de poireaux, aux cheveux de barbiturique, à la langue de lampe à huile, aux bras de savon à barbe, aux épaules de vinaigre, au ventre de pois chiche, à la verge de compteur geigère, aux rotules de café en grains, aux oreilles de vieux xérès, aux vertèbres de pince à vélo, chevalier sous les ardoises du cloître, longuement étendu dans l'après-midi de mouettes et de tourterelles. Le sexe enveloppé de bandelettes descendant en compagnie de l'épée contre l'intérieur de la cuisse, non loin du genou gauche étoilé d'une fleur des champs. Et moi, dans l'ombre portée du sarcophage. Des voix bourdonnent tout autour et une voix d'enfant se perd et se dissipe dans l'herbe haute semée de pissenlits et de pâquerettes. Dans son auber serré par les ceintures de combat, il dort, les yeux ouverts. Profil perdu, casquette de toile, torsade de cheveux blonds sur l'épaule, couleuvre navire rouge, flèche sur le beau bouclier de la mer, filant sur les boucles d'eau, penché sur ses yeux mêmes cuirassés orangés vers la mer libre, la colonne frêle du cou sur le maxillaire tendu, élégant la bouche, lèvres un peu enfantinement gercées, fin pli à l'angle de l'œil, roux bleu, disparu dans la marée montante, enfui et soudain dissoute parmi les brumes de midi du côté des balises. Phallus grandiose contre l'azur mort, léché de foutre marin, fongosité gluante, pendant en grappe de ganglions, œufs noirs, piégé dans des rubans et des lanières. Dans la lucarne, la mer fait onduler un fil d'eau patiente. Un orage commence à rouler, diffus, et la lune est occultée par des nuées d'encre d'où part le feu verdâtre trouant la mer, langue de cobra. Cloche lointaine. Elle remonte le long de la berre. C'était hier ou il y a 8 jours, la pluie s'approche souple sur ses semelles d'eau, le long des haies où se cachent de sombres animaux de feuilles, leurs yeux, trous d'ombre dans les feuillages. Tas de cailloux élevés par la piété pour le salut d'une âme en peine, été de Bretagne vieux de toutes ses coiffes au rebut de la fille. Gros et ballonné nuages lumineux, c'est la vie. On entend un chien de ferme. La pluie grise bouche l'horizon circulaire. Son aboie dans la pluie. Vent et bruit paresseux des gouttes, vagues chuintements de l'air, flambeaux et paroles chuchotées. Et nous arrivons ainsi, tranquillement, à la fin du texte de Yves Elewet que nous terminerons ensemble demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.